Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacune de nos vies. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, et j'aimerais vous demander de ne pas fermer après la lecture votre Bible, parce qu'on va tout au long de la prédication y faire référence. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse, alors que Paul, au travers de ce courrier, est en prison à Rome. Il faut comprendre ce contexte. Quand on a une liberté, on exprime des choses, et encore mieux de visu. Mais imaginez, on est en l'an 60 environ, et l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je m'arrête un instant, vous aussi d'ailleurs. Et ce sera le thème et la pensée de ce matin, que Dieu illumine les yeux de notre cœur et qu'il nous donne une révélation de sa personne. Je ne veux pas entendre un orateur, quel qu'il soit. Je veux entendre mon Seigneur. Il a des choses à me dire. Et vous savez, quand du ciel, la voix se fait entendre à plusieurs reprises sur la personne de Christ qui en a eu besoin, quand Dieu lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et nous avons besoin parfois d'entendre cette douceur et cette voix qui nous parle et qui nous dit ce matin « Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Je ferme la parenthèse, mais cette phrase, vous allez l'entendre ce matin. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toute en tous. Amen. Quand je lis ce texte, j'ai l'impression que l'apôtre Paul, de la part de Dieu, animé par cet esprit de grâce, le consolateur, est en train de dire « Arrête de regarder l'un ou l'autre, regarde à lui. » Et qu'il illumine les yeux de ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais qu'il bénisse quelqu'un en particulier ce matin. Moi. Moi, je me sers d'abord parce que je dis, je ne suis pas là pour vous prêcher, mais je suis là pour entendre la parole de Dieu comme vous. Pas toujours facile pour un pasteur, hein ? Oui ? Non, monsieur, ça va. Qu'il illumine les yeux de mon cœur. Le texte au verset 15, pour ça vous avez gardé votre Bible ouverte, verset 15, l'apôtre Paul commence par dire, j'entends dire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec quelqu'un et puis qu'il vous dise dans la conversation « Ah, j'ai entendu dire que... » Oh là là, moi je tremble. Je tremble. J'ai entendu dire que... J'en suis pas sûr, mais il paraît que... Et le texte nous dit que l'apôtre Paul a entendu dire. Qu'est-ce qu'il avait pu entendre? Eh bien, il a entendu parler de la foi et de l'amour des Éphésiens. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, même dans sa prison, les échos qu'il a, ce qu'il entend, il ne retient que ce qui est bon. Parce que dans sa prière qui suit, il dit quand même, « Je prie le Père de gloire de vous donner un esprit de sagesse. » C'est que certainement, il y en avait besoin un petit peu. Sauf chez vous, peut-être, à Saint-Agne, mais non seulement un esprit de sagesse, mais de révélation dans sa connaissance. Et c'est là où je comprends mieux qu'il doit illuminer les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et Paul retient deux points forts chez les Éphésiens. C'est pas formidable ça? Non. Vous êtes bouche bée. Non. On pourrait s'interroger d'ailleurs, je me suis interrogé, sur le fait de dire, est-ce que ce que dit Paul aux Éphésiens n'est pas en réalité une parole de connaissance concernant l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui doit éclairer le cœur des Éphésiens concernant leur Église? Parce que, vous savez, une Église, c'est extraordinaire, c'est le corps de Christ, on l'a entendu ce matin. Mais quand je porte un regard sur les Corinthiens, qui avaient tous les dons, puis d'un seul coup, catastrophe. Non, je parlais des Corinthiens, soyez rassurés. Parce que 35 ans plus tard, Jean l'apôtre écrit aux sept églises. Et la première des églises à laquelle il s'adresse, image de l'état des églises de l'époque, mais aussi d'une manière prophétique, l'image des églises des derniers temps, des temps dans lesquels nous sommes. Je te connais. Je te connais, toi, Église d'Éphèse. Mais j'ai un souci avec toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Voici que le compliment de Paul devient une alerte par Jean, comme pour montrer que l'habitude, peut-être l'excès de confiance en soi, ou l'excès de confiance en un homme, quel qu'il soit, peut nous amener à perdre pied. Et je dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, pour que les circonstances, pour que les faits ne changent pas mon attachement. C'est toi qui es le chef de l'Église. C'est toi qui bâtis ton Église. Et s'il y en est un que nous devons suivre d'une manière inconditionnelle, c'est bien toi, Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Vous savez, dans le comité de recours et de conciliation que je coordonne, on a cette règle de base, ni juge, ni sauveur. Nous ne sommes pas les juges et on n'a rien de magique pour être sauveur. Parce que le seul sauveur, c'est Christ. Et celui qui pourrait nous juger commence par nous dire « Mais j'ai payé le prix pour être condamné à ta place, je veux te sauver. » Il y a une démarche de grâce et d'amour. Et dans cette démarche, c'est comme si l'apôtre Paul alerte l'église d'Éphèse. Je sais pas, quand j'ai lu et j'ai relu cette semaine ce texte, ce chapitre premier, j'ai voulu vraiment m'en imprégner. Et au fur et à mesure, ce chapitre premier, il est extraordinaire, mais extraordinaire. Il mériterait des séries d'études bibliques. C'est vrai, hein? Je vois Marc qui me fait signe, mais c'est vrai. Moi, j'ai arrêté de le lire parce que je dis que je vais avoir trop de choses à dire dimanche matin. Premier chapitre, extraordinaire. Deuxième chapitre, il dépeint le salut par grâce, par le moyen de la foi. Et puis après, il est question de la révélation du mystère de l'Église. Et je dis du mystère qui va l'amener dans un troisième temps, Éphésiens 4, au ministère de l'Église, puisque les ministères dont prophètes, docteurs, vous les connaissez. Il y en a qui vont se dire, si ils ne se rappellent plus. Non, non, je suis aumônier de la maison de retraite, mais ça va, je me protège. Parce que je crois que Éphésiens 4 dépeint bien la responsabilité des ministères qui doivent former l'Église à son ministère. Et c'est l'Église qui a le ministère par excellence, dans son identité, dans l'implication avec ses anciens, ses diacres. Je vous dis ces choses, mais pour moi c'est important. C'est Éphésiens 4. Et puis si je vais plus loin, eh bien ça se termine par la marche avec l'Esprit, la vocation céleste. Et ça, c'est en 60. Et 35 ans plus tard, on fait un constat d'un drame, il n'y a plus l'amour. Mais ça ne s'est pas passé en 35 ans. Il y a eu des paliers. Alors je comprends la prière de Paul, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez découvrir toute la richesse de sa grâce, qu'il illumine votre intelligence spirituelle. On est spirituel. Amen. Moi, j'aime bien Galates, l'épître aux Galates, parce qu'elle commence au chapitre 2 par ces mots « Vous qui êtes spirituels ». Et tout de suite, on se sent tous concernés. Mais quand, c'est Galates 6, hein, quand il est dit dans Galates 6, vous qui êtes spirituel, c'est juste aussitôt, parce que nous on a cloisonné par des chapitres, c'est juste aussitôt, il est dit, que le fruit de l'esprit c'est. Et vous qui êtes animés du fruit de l'esprit, vous qui êtes spirituel, reprenez avec douceur celui qui a commis une faute. Et l'apôtre continue en disant, parce que vous ne savez pas si un jour vous n'allez pas traverser les mêmes problèmes. Et c'est ça être spirituel, c'est être capable aussi de savoir et de connaître nos limites, qu'il illumine les yeux de notre cœur. On est très imprégné par cette logique de raisonnement humain. Vous savez, quand Dieu a envoyé Samuel pour oindre pour roi dans la maison d'Isaïe, un des fils d'Isaïe, qu'il est rentré dans la maison, quand il a vu le grand gaillard, Éliab, 2,80 m, et Dieu lui a dit, alors il y avait le suivant, Abinadab, je ne vais pas vous faire la liste de tous les frères. Il a dit, bon, ça va être celui-là, parce qu'il est bien aussi. Et Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, le regard. Mais l'Éternel, lui, il voudrait que tu illumines les yeux de ton cœur. Avoir une autre vision. Et j'ai été frappé de voir tous ces textes de l'Écriture, quand l'apôtre Paul aux Romains dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, dit certaines versions, par le renouvellement de votre entendement, de votre logique, de votre raisonnement, de votre intelligence, pour que les yeux de votre cœur discernent quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » On n'est pas dans le même étage. Il faut que le Seigneur nous aide. Parce qu'on est souvent prisonnier de notre logique et de ce que nous voyons, de ce que nous constatons, parce que nous ne sommes pas toujours capables de lire ce qui se passe dans les cœurs des autres, mais parfois même dans le sien. Vous savez ce que Paul dira aussi aux Corinthiens ? Les armes que Dieu vous donne sont puissantes pour renverser les forteresses. Là, on s'attend à ce qu'on ait des murailles à renverser, hein. Non, non, pas les forteresses, les combats, non, non. Il parle du raisonnement, de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, afin d'amener toute pensée, toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est cela, illuminer les yeux de notre cœur, c'est arriver à laisser le Saint-Esprit maîtriser nos pensées captives, pour nous donner un regard de grâce, d'amour, de compassion sur ceux qui nous entourent. Quelqu'un nous disait récemment, si tu ne veux plus critiquer ton frère, fais cette démarche, apprends-le à le connaître. Fais cette démarche. Si tu le connais, tu verras ses richesses, ses trésors, et tu n'auras plus envie de le critiquer. Et il ajoutait, le problème, c'est que tu n'as pas envie de le connaître parce que tu perdrais le plaisir de le critiquer. C'est quand même terrible, hein, la nature humaine, non ? Bon, j'ai l'impression que ce matin, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez connaître l'espérance qui s'attache à son appel. Et là, il y a tout un chapitre qui est important, l'espérance de la construction du corps de Christ, l'unité du corps de Christ. Je pense que déjà la note était plantée ce matin dans nos cœurs. Le Seigneur sait à quel prix il va bâtir le corps de Christ. Nous n'étions pas son peuple et il a fait de nous son peuple. Nous sommes des enfants d'adoption. Et deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? Toutes les promesses. Et Christ s'est assis dans les lieux célestes. Et là, il nous a acquis toutes sortes de bénédictions. Oui ? Il a mis en réserve dans les lieux célestes toutes sortes de bénédictions. Mieux. Il nous a fait en soir ensemble dans les lieux célestes. J'aurais tendance à vous dire, qu'est-ce que vous faites encore là ? Mais c'est les yeux de notre cœur. Nous avons une position. Et si nous n'entrons pas dans cette dimension, nous risquons de passer à côté de toutes ces réserves. Un chrétien a fait un jour un rêve. Il se retrouvait dans le ciel, il y avait des hangars qui étaient pleins. Mais pourquoi ils sont pleins ? Ben parce que les croyants n'ont pas réclamé ce qui était prévu pour eux. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que j'aille puiser tout ce que tu as promis pour ma vie, pour mon cœur. Le Seigneur ne nous a pas laissé des promesses pour nous rassurer, mais que nous puissions rentrer dans la réalité. Et je crois qu'il a de belles choses à nous faire voir. Moi, je crois au réveil. Je crois au réveil, non seulement dans nos églises, mais dans toutes les églises. Il n'y aura pas cette place. Moi, j'y crois. Parce que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et cette vision-là n'est pas restrictive. Donne-moi un cœur large. Donne-moi une vision large. Donne-moi de comprendre ce que tu attends de moi. Préserve notre église locale, la famille. Mais donne-nous une vision globale. Celle de ton Église que tu prépares. Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance ? Je passe sur ces trois points parce qu'ils mériteraient une réflexion. Et j'en viens à peut-être un texte d'Éphésiens qui résume cela. Dans Éphésiens 4, il est dit, je vois que vous cherchez Éphésiens 4, Monsieur Jérôme, c'est après le 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On est bien dans Éphésiens. Vous vous rappelez qu'au chapitre 1er, il disait, ce que j'ai entendu dire, c'était vraiment la foi comme ça, l'amour comme ça. Puis là, on commence à, il serait peut-être bien que vous marchiez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Un petit peu d'humilité, ce serait pas mal. Beaucoup de douceur, ce serait mieux. Avec patience. Et là, vous vous rendez compte qu'il aura dit, il y a quelques versets, il aura dit, de votre amour les uns pour les autres. Puis là, maintenant, il leur dit, vous supportant les uns les autres avec amour. Voyez l'évolution rien que sur quelques chapitres. Ça nous montre que si nous n'avons pas cette grâce et ce renouveau de la grâce, si moi j'en ai pas besoin, je me fais piéger. Et mon étiquette de pasteur ne va rien changer. Pas plus pour mes collègues. Nous avons tous besoin de ce renouveau de la grâce. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps. Un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, je vous promets qu'on ne s'est pas consulté avec Jérôme. Mais le Seigneur, c'est sa vision. Et il fait fi des situations présentes, parce que lui, il a un regard sur l'avenir. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour me donner la vision de ton œuvre et que je devienne un acteur dans ton œuvre et pas un spectateur. Amen. c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Quand on pense que dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a été obligé de leur dire à un moment donné, vous avez fini, non ? Il y en a un qui dit, moi je suis pour Paul, l'autre qui dit, moi je suis pour Céphas, l'autre qui va dire, moi je suis pour Apollos. Il y en a même un qui a dit, je suis pour Christ. Il en a trouvé un. Je crois que parfois le Seigneur pleure. Parce que la source de notre grâce n'est pas dans l'homme, quel qu'il soit. Ni Paul, ni Céphas, ni Apollos. Mais notre source, elle est en Christ. Et j'étais frappé de 5 points. Je vous rassure, hein, j'ai bientôt fini l'introduction. Chapitre 1, verset 1er. Quelqu'un veut bien me le lire ? Chapitre 1, verset 1er. Oui, Jérôme. Verset 4 du chapitre 1. Pardonnez-moi si je bouscule les habitudes, hein, mais...
Non, pas de souci.
Vas-y.
Je cherche verset 4.
Verset 4.
En lui.
C'est-à-dire en qui ? En Paul ?
En Christ.
En qui ? En Christ.
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption.
Stop. En lui, nous sommes des fils, des filles d'adoption. Et je crois que s'il est une première source qui doit nous animer au plus profond d'entre elles, c'est véritablement de dire, Seigneur, je suis ton enfant. Et je voudrais entendre encore la voix de Jésus nous dire, j'ai pas honte de t'appeler mon frère. Vous vous rendez compte ? Et je crois que c'est important, hein, quand la lumière est venue chez les siens, Jean 1, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle a donné quoi ? Le pouvoir. C'est pas ma logique, c'est pas mon raisonnement. T'en vas pas, hein, encore besoin de toi. Mais c'est la puissance de Dieu. Seigneur, rafraîchis, redonne-moi de bien réaliser, je suis ce matin ton enfant. Une personne âgée me disait, hier après le culte de la maison de retraite, elle me disait, l'ennemi est en train de me dire en permanence que je ne suis plus enfant de Dieu. Et elle pleurait. Vous regardez la subtilité de l'ennemi, la première chose qu'il va faire, c'est la remise en cause de la filialité. Il n'y a rien de plus terrible. Jean dit dans son épître, c'est une joie d'être enfant de Dieu et nous le sommes. C'est une puissance. Ce n'est pas les registres humains, ce n'est pas les hommes. Et même si quelqu'un vous dit un jour, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus enfant de Dieu, vous pourrez dire, mais Dieu, lui, il me dit que je suis toujours son enfant. Ça, c'est le premier point. Verset 7.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce.
Stop. Non, mais c'est pas la peine qu'il lise tout le chapitre, il n'y a que celui-là qui m'intéresse, alors. En lui, nous avons quoi ? Toute la dimension de rédemption, il a payé le prix. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire des efforts pour t'améliorer ? En lui, nous avons la rédemption. Même pour notre sanctification. Et par son esprit, il agit. La rédemption et le pardon de nos péchés. Moi, je crois à la puissance du sang de Jésus. Alors que je prenais ce vin ce matin, je disais le sang de Jésus me purifie de tout péché. Alors que l'ennemi voudrait remettre une couche pour nous culpabiliser. En Christ. Chez l'homme, même le meilleur ami, il aurait toujours quelque part dans un coin de son sous-sol. Je me rappelle, j'étais venu faire des formations sur la guérison intérieure à Saint-Agne. Et j'avais parlé de tout ce qu'on entasse dans le sous-sol de notre vie. Oui. Et vous savez, de temps en temps, quand ça ne va pas, il y a l'ascenseur qui remonte du sous-sol, les portes s'ouvrent, je ne vous dis pas, on devient riche en vocabulaire. Les amertumes, les rancœurs. Mais si les hommes ne savent pas, et si moi je ne sais pas me pardonner, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est ça que je veux confesser. Illumine les yeux de mon cœur pour que j'aie un cœur libéré en ta présence. Amen. On continue. Verset 11.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Top. Héritiers. Non seulement il nous a appelés et il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi parce que j'ai des promesses pour que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure. Et le Seigneur, lui, il est capable de faire de nous, comme il a fait pour l'Église primitive, il en avait 12, bon c'est passé à 11. Mais il a fait de 11 personnes ordinaires, des hommes extraordinaires, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour qu'il change votre être ordinaire en un être extraordinaire, parce que visité par son Saint-Esprit. Il y a des dons, il y a des ministères, et je crois que le Seigneur doit nous donner de prendre conscience et que nous puissions ouvrir les yeux de toute la richesse de ce qu'il veut accorder à son Église. Les ministères d'Éphésiens 4, ce n'est pas pour une élite, mais c'est pour l'ensemble du corps. Amen. Vous pouvez dire amen quand vous êtes d'accord. Hein, mais... Alors, je ne vais pas m'attarder, je vais te libérer, Jérôme. Verset 13, « En lui nous sommes scellés du Saint-Esprit. » Et verset 20, « En Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu, » il a fait de nous celui qui est le meilleur des sacrificateurs. Il intercède en notre faveur, que son nom soit béni. Amen. Quelques flashs. Quelques flashs. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Ils étaient tout tristes parce que leur logique leur disait « c'est pas normal que Christ soit mort ». Et la majorité du peuple juif aujourd'hui s'interroge sur cela, parce qu'ils pensent que c'est un échec. Alors que la crucifixion, la mort de Jésus et sa résurrection font partie du plan d'amour de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Mais il fallait que leurs yeux s'ouvrent. Et petit à petit, sur le chemin, le cœur des disciples s'est réchauffé. Jusqu'au moment où ils ont pris le pain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts. Ouvre mes yeux, Seigneur. Pour que ce qui peut-être aujourd'hui me rend triste et ma câble devienne une source de force et de compassion pour les autres. Seigneur, je veux m'en rappeler de Jacob, quand il était dans ce lieu à Bethel, et qu'il n'a pas trop compris ce qui se passait. Au bout d'un moment, il a dit, certainement que l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le réalisais pas. Moi, je suis convaincu que dans nos déserts, comme il l'a fait pour Agar, dans nos moments de solitude, dans nos moments de découragement, dans nos moments de rébellion, j'ose dire l'Éternel est dans ce lieu. Et dans le moment du désert, alors que la seule espérance est un buisson qui n'en finit pas de brûler, vous rappelez Moïse ? Ôte tes souliers, l'Éternel est là. Dans ta difficulté, des soucis, des problèmes, dans les obstacles. Et je bénis le Seigneur parce que dans mon ministère, j'ai toujours réalisé que dans les moments les plus difficiles, Dieu était là. Enlève tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint parce que je suis là. C'est sa présence. Que son nom soit béni. Amen. Un autre flash. Vous vous rappelez Élisée, quand il est devant le combat suite à ce roi de Syrie, son serviteur lui dit « Mais que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Ils sont plus nombreux !» Élisée lui dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, d'un seul coup, la montagne de l'Éternel était remplie de chevaux et de chars de feu. Élisée pouvait lui dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'ennemi. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, que nous puissions nous arrêter sur ses promesses. Et je termine. Les prophéties prendront fin. Les miracles prendront fin. Le côté, j'allais dire, spectaculaire qui intéresse souvent la nature humaine. Mais il est une chose qui va demeurer. C'est l'amour. Mais il est une chose que mon cœur doit cultiver. C'est l'amour. Que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur et qu'il me donne comme le sarment de puiser toute la sève du cep parce que ma nature ne peut pas aimer tout le monde. Parce qu'il y a des gens... Non, vous voyez mon visage déjà. Mais Dieu, dans sa grâce, m'apprend à les aimer. Parce que c'est sa sève qui pénètre dans ma vie, qui illumine les yeux de votre cœur. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière quelques instants. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, mais moi je crois que le Seigneur nous parle ce matin. Et peut-être... certains parmi nous voudraient dire cette prière, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi une autre vision, Seigneur. Et donne-moi surtout la vision de ce que tu attends de moi, de ce que tu veux de moi. Afin, Seigneur, que je puisse puiser en toi, en Christ, toutes les merveilles. J'aimerais que vous fassiez cette prière. Elle est dans le fond de votre cœur. Les autres ne l'entendent pas. Seigneur, dans ta grâce, tu es celui qui voit et qui lit dans nos cœurs. Alors je te prie de souffler ton esprit et de communiquer la clarté et la fraîcheur de ta vision pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen.